Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances de la Toussaint sont terminées, mais on ne peut pas dire que nos amis musiciens aient fait relâche durant cette période, loin s'en faut. Vous allez pouvoir le constater lors de cette émission. Novembre reste un des temps forts de l'année musicale à Toulouse et dans notre région. Certaines saisons vont même commencer ce mois-ci, notamment celle des arts renaissants. Nous allons vous en dire plus dans quelques instants avec mes deux invités du jour. Tout d'abord, le toujours fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, un autre Serge, habitué lui aussi de Mélomanie, Serge Krichewski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre en harmonie, membre des Clés de Saint-Pierre et président du festival Musique au Palais, dont la 7e édition a lieu le week-end des 19 et 20 novembre au Palais Niel à Toulouse. La programmation de cet événement est au cœur de la seconde partie de ce numéro. Il va toutefois falloir un peu de patience pour la découvrir, puisque c'est l'actualité musicale récente que nous allons aborder dans l'immédiat. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux, merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Nous allons revenir sur deux concerts donnés ces jours-ci à la Halle au Grain, celui de l'Orchestre National du Capitole samedi et celui des grands interprètes lundi. Le premier était programmé dans le cadre du cycle Happy Hour que propose depuis quelques années l'Orchestre du Capitole. Samedi, le programme était entièrement dédié à Mozart et à ses deux dernières symphonies. La phalange toulousaine était dirigée pour la première fois par Mei-Han Chen. Serge Chosy, je crois que vous avez été plutôt favorablement impressionné par la direction pleine d'énergie de cette chef taïwano-américaine, alors peut-être même un peu trop impressionné finalement.
C'est-à-dire que sa manière de considérer l'œuvre de Mozart, c'est un peu dans le prolongement du post-romantisme, hein, une vision extrêmement énergique, pleine de tensions, mais bien faite, hein, bien faite. Donc évidemment, depuis quelques années, on a l'habitude d'entendre Mozart diriger autrement, avec d'autres contraintes ou d'autres libertés.
Et d'autres partis pris peut-être aussi.
Oui, aussi. Oui. Mais je voudrais revenir sur ces concerts Happy Hour, qui possèdent une spécificité très particulière. Moi, j'ai été vraiment surpris ce samedi-là de voir un public complètement différent du public habituel des concerts d'abonnement réguliers. D'abord, le fait qu'on applaudisse après chaque mouvement, bon, ça n'est plus la coutume actuelle, mais rappelons que du temps de Mozart, non seulement on applaudissait entre les mouvements, mais on applaudissait au milieu des mouvements, quand il y avait un trait orchestral qui plaisait. Mozart le dit à son père dans ses lettres lorsqu'il était à Paris. Mais surtout, il y a énormément de jeunes et d'enfants. Évidemment, c'est à 18h, un samedi, donc...
Oui, ça permet de venir en famille.
Ça permet. Oui, alors j'avais même remarqué qu'il y a plus de têtes blanches et de têtes blondes, en fait. Il y a des gens âgés qui n'aiment pas trop sortir le soir, et puis des tout jeunes. Donc, on les sent très enthousiastes. Donc, c'est très positif, hein. Donc, cette chef américano-taïwanaise, Mei-Han Chen, a dirigé les deux dernières symphonies de Mozart, là. Très célèbre 40e, célèbre 41e aussi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est la 40e en général qui...
Oui, qui ressort beaucoup plus, qui est plus jouée aussi. Hein.
Plus jouée, oui, et dont le thème du premier mouvement est utilisé, y compris dans des pubs. Hein. Voilà, alors, elle a dirigé ces deux symphonies avec une grande énergie, comme je le disais, et autre chose, elle dirige sans partition, donc bon, mais ça devient
oui,
assez
ça devient
courant.
Un peu la norme, de plus en plus, sur certaines œuvres où c'est compliqué.
On a eu Tarmo Peltokoski qui avait dirigé la 5e, de Shostakovich sans partition, ce qui était quand même une performance. L'autre particularité, c'est qu'elle a redisposé les pupitres de violon en laissant à gauche, évidemment, les premiers violons, mais en mettant les seconds violons à droite, en écho en quelque sorte. Et finalement, ça marche assez bien, puisqu'il y a des séquences d'écho entre les deux, et donc elles sont plus nettes que lorsque les deux pupitres de violon se suivent. Donc la 40e, bon, ben, elle a beaucoup dramatisé le molto allegro initial, hein. C'était presque haletant, hein, sur le plan du rythme. L'andante, elle l'a donné dans un tempo soutenu, mais qui se défend tout à fait. Et puis, j'ai apprécié le menuetto, dont le caractère était plus paysan que de salon, hein. C'est un menuetto, mais un menuetto bien ancré dans le sol, donc, en quelque sorte. Et puis, donc, le final, très bien, très contrasté. Pour la 41e, il y a en plus des trompettes et des timbales, et en moins des clarinettes. Donc, là, le propos est plus solennel. Et alors, elle confère à l'allegro initial, l'allegro vivace, une vigueur extrême, hein. Puis, l'andante cantabile est plus rêveur, hein, ce qu'il faut, hein. Et le mouvement final, alors le mouvement final de cette symphonie, il faut quand même dire que c'est une merveille de construction, hein, qui remonte en quelque sorte dans la structure à Bach avec la fugue, la fameuse fugue, hein. Ah là, c'est une coda en forme d'apothéose. Et là, la chef, donc, a souligné l'allégresse, mais à juste titre. Alors, ce contrepoint-là, on peut dire qu'il est connoté de manière historique.
Alors Serge Krzyzewski, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la direction de cette chef que vous aviez pour la première fois, je crois, à la tête de l'orchestre?
Effectivement, comme l'a dit Serge Chosy, une référence un peu entre guillemets démodée. Bon, c'est pas forcément,
péjoratif,
une insulte, oui, ou péjoratif, mais voilà, un petit peu décalé de ses choix esthétiques, en particulier l'effectif choisi par elle était un peu plus important que l'habitude qu'on a maintenant de jouer dans des effectifs plus transparents, même si ce sont des œuvres effectivement qui ont été considérées notamment par les grands chefs allemands de la tradition comme étant des œuvres de maturité de Mozart. Donc ils considéraient qu'il fallait les jouer avec un orchestre beaucoup plus grand. Bon, en tout cas, ça engage forcément, notamment au niveau des parties graves de l'orchestre. C'est plus difficile de jouer très léger, très fin de cette manière-là. Mais bon, ça reste une musique de toute façon extraordinaire. Et bon, la 41e, on la joue moins, forcément, moins que la 40e. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'elle est splendide aussi. Bon, le final, effectivement, magnifique, tout à fait brillant. Et bon, voilà, Mozart avait commencé une dizaine d'années plus tôt à se pencher sur la musique de Bach. Il a écrit le célèbre Adagio et Fugue, d'abord pour deux pianos, puis pour quatuor à cordes. Il a voulu se frotter au style fugué, au style de contrepoint, point qu'il a introduit progressivement dans beaucoup, beaucoup de ses œuvres à partir de 1782-84. Donc là, c'est vrai que c'est une apothéose. Enfin, il y a des moments où on a l'impression d'un feu d'artifice musical, toutes ses entrées, la courte fugue à la fin, elle n'est pas très longue, mais où elle imbrique vraiment toutes les figures, toutes les positions du thème renversées, à rebours, etc. Et tous les motifs, les autres motifs secondaires de ce mouvement tiennent de façon magnifique. Enfin, c'est vraiment une création fabuleuse, ce mouvement et cette symphonie.
Le début du premier mouvement de la symphonie numéro 40 est très célèbre, mais celui de la 41e Allegro Vivace mérite aussi d'être entendu dans cette émission. En voici une version du Berliner Philharmoniker dirigée par Karl Böhm. Thank you. premier mouvement Allegro Vivace de la symphonie numéro 41, dite Jupiter de Mozart, interprété par le Berliner Philharmoniker dirigé par Karl Böhm. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi 12 novembre à 20h, toujours à la Allograin. Nous vous le présenterons plus tard dans cette émission. Lundi, dans cette même Allograin, a eu lieu le deuxième concert de la saison des grands interprètes. Et c'est une artiste très appréciée à Toulouse qui s'y produisait, accompagnée par les musiciens du Prince Monaco, la mezzo-soprano Cecilia Bartoli. Elle a interprété un copieux programme d'airs d'opéra de Vivaldi et Handel, entrecoupé d'extraits de concertos de pièces instrumentales. Serge Chosy était de nouveau présent. Comment se sont passées les retrouvailles entre la chanteuse italienne et son cher public toulousain?
Eh bien, ça a été un nouveau triomphe. Hein. Effectivement, elle vient très souvent dans le cadre de la saison Grands Interprètes, depuis longtemps. Sachez qu'elle a quand même fait ses débuts à Toulouse en 1994.
Théâtre du Capitole.
Sur la scène du Capitole, dans le rôle de Dorabella, de Così fan tutte. Mais elle a beaucoup d'occupations, puisque en 2012, elle a été nommée directrice artistique du prestigieux Festival de Pentecôte de Salzbourg. Et donc, elle a créé à Monte Carlo, ou à l'Opéra de Monte Carlo, elle a créé l'ensemble qui l'accompagnait ce soir-là, c'est-à-dire les musiciens du Prince Monaco. Et c'est elle qui est à l'origine de la création de cet ensemble, qui est presque un orchestre, on peut dire, hein, puisqu'ils étaient l'autre soir une trentaine de musiciens sur la scène de la Allograin, donc. Et ces musiciens étant dirigés par Gianluca Capuano, qui en même temps tient un des clavecins, puisqu'il y en avait deux. Et donc, elle a prévu donc un concert consacré à ces deux grands compositeurs presque contemporains que sont Vivaldi et Handel. Alors, évidemment, c'est un répertoire qu'elle connaît à la perfection et qu'elle a défendu. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y avait donc deux parties. La première partie, Vivaldi, avec cette espèce de sensualité de la musique de Vivaldi. Et puis, Handel, avec plus de solennité, avec un style différent. Et donc, la différence de style, elle se voyait aussi bien dans le chant de Bartoli que dans l'orchestre. Excellent orchestre d'ailleurs, avec des solistes vraiment impressionnants, notamment un flûtiste fantastique, vraiment fantastique, un grand premier violon, un trompettiste, trompette naturelle, donc sans piston, hein, trompette baroque magnifique aussi, et donc un beau concert, avec une chose un peu particulière, le fait qu'il y ait peut-être une vingtaine de pièces différentes, hein. On pouvait se dire ça va être très morcelé tout ça, avec des applaudissements à tout moment, mais non, pas du tout, parce qu'ils ont lié et réuni des pièces avec des caractères proches de manière très intelligente, très bien faite, avec des interventions entre deux morceaux qui se suivent par exemple le théorbe ou le clavecin qui adapte en quelque sorte les tonalités entre les deux pièces qui se suivent, et donc c'était vraiment très très bien fait. On avait l'impression d'assister là aussi à une œuvre unique qui coulait de manière très très progressive. Alors, parmi les pièces de Vivaldi qu'elle a chantées, elle a commencé par des pièces très nostalgiques, avec notamment Sovente il Sole de Andromeda Liberata. Alors, je voudrais dire en passant que ben là, ça a été l'occasion de découvrir quand même certains opéras de Vivaldi. On sait que Vivaldi a composé un grand nombre d'opéras qu'on ne donne pratiquement jamais.
Peut-être un peu donné en Italie de temps à autre, mais il y en a tellement aussi que il y en a
qui sont mais chez nous, à part Orlando Furioso par exemple. Bon, Farnace, pas trop. Là, on a découvert avec des airs dans lesquels la cantatrice excelle. Hein. Alors, elle a toujours cette voix extrêmement belle, extrêmement pure. J'ai trouvé qu'elle jouait moins sur le staccato, parce qu'elle est célèbre pour ses vocalises staccato d'une précision incroyable. Mais là, elle a mis un peu de legato dans ses vocalises. Donc, j'ai trouvé ça très, très touchant, très beau. Alors, avec, dans la première partie Vivaldi, deux mouvements des quatre saisons. Un mouvement de l'hiver, donc, avec des cordes tout à fait grinçantes, comme il le faut. Et puis, un mouvement de l'été. Et donc, cette première partie s'est terminée. Alors, après l'orage de l'été, elle a chanté « C'est lento ancora il fulmine », c'est-à-dire l'orage, donc c'était un peu un prolongement de l'orage des quatre saisons dans cette ère de Agipo, que j'avoue, je ne connaissais pas du tout.
Un autre opéra.
Alors là, il s'agissait d'imprécations furieuses. Elle excelle là-dedans aussi. Alors, dans la partie Handel, là aussi, avec plus de solennité, comme je le disais, avec des pièces à la fois instrumental des ouvertures, notamment l'ouverture de Giulio Cesare in Egitto, donc qui a été donné entre deux airs là, et puis avec des airs à la fois célèbres et d'autres pas du tout. En particulier, le plus célèbre d'entre eux, c'est Lascia la spina, donc qui est un air que Handel a d'ailleurs recyclé dans plusieurs de ses œuvres. Et là, elle a chanté la version qui figure dans Il trionfo del tempo. Il est le désingano.
Triomphe du temps et de la vérité.
Du temps, voilà. Avec également un air de Cléopâtre, de Giulio Cesare, Vadoro pupille, alors qu'elle a chanté avec une finesse, une beauté, un legato, une pureté, des pianissimi extraordinaires. Voilà, ça s'est terminé. Le programme officiel s'est terminé là, mais elle a eu un tel succès qu'il a fallu qu'elle revienne pour des bis. Des bis très peu traditionnels.
Inattendu.
Ah oui, complètement inattendu. Notamment un premier, il s'agissait d'une chanson italienne des années 1930 à peu près, qui est « Non ti scorda di me », donc « Ne m'oublie pas » en quelque sorte, alors qu'elle a chanté avec l'orchestre, alors avec les instruments baroque qui faisait des glissandis incroyables, donc vraiment on se voyait ailleurs. Et le deuxième bis, alors là c'était une sorte de défi entre la trompette et la voix. Alors ça s'appelle A facile vittoria, la victoire facile, donc, alors je ne sais pas de qui. Et là c'était une sorte de défi que se lançait la trompette et la chanteuse.
Une battle, comme on dit.
Ah oui, exactement.
Dans d'autres disciplines artistiques.
Alors la trompette dansait des traits très virtuoses et la chanteuse était censée faire mieux encore, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, évidemment. Ça a été un véritable triomphe qui s'est achevé même par une mélodie. Eh bien, de Poggi & Best, carrément.
C'est vraiment inattendu.
Summertime,
à la fin
Summertime
baroque,
a terminé le concert de musique baroque. Donc, ça a été le délire. Mais disons vraiment que dans l'art du chant de la cantatrice, il faut souligner aussi sa diction incroyable. On comprend absolument tout ce qu'elle dit. Évidemment, c'est de l'italien, elle est italienne, mais ce n'est pas pour ça que les dictions sont toujours parfaites. Et la complicité musicale qui existe entre l'orchestre et elle, qui vraiment fait merveille.
Très belle soirée proposée par les grands interprètes et dans ce programme très dense proposé lui par Cécilia Bartoli à la Lograin, il n'y avait que l'embarras du choix pour vous faire entendre sa voix. Nous allons l'écouter dans l'air fameux Lascia la spina, extrait du Triomphe du temps et de la vérité de Georg Friedrich Händel.
Spirit.
La Schala Spina, air extrait du Triomphe du Temps et de la Vérité de Georg Friedrich Händel, interprété par Cecilia Bartoli, accompagné ici par les musiciens du Louvre. Prochain rendez-vous des grands interprètes, le lundi 21 novembre à la Halle au Grain, avec le pianiste russe Grigori Sokolov. Fin de cette première partie d'émission et petite virgule musicale avant de retrouver les deux Serges, Serge Chosy et Serge Krichevski. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda est la seconde partie de Mélomanie avec Serge Chosy et Serge Krichevski, le président et directeur artistique du festival Musicopalais, dont la 7e édition se déroule le week-end des 19 et 20 novembre à Toulouse, au Palais Niel, un cadre somptueux pour deux après-midi de concerts. Je rappelle que le festival a été fondé en 2015 par Emmanuel Sirat, qui vous a passé le flambeau en 2019, Serge. La marque de fabrique de la manifestation depuis ses débuts, c'est de réunir dans la programmation deux grands amateurs, de jeunes élèves de conservatoires nationaux ou régionaux et des musiciens professionnels. Emmanuel Sirat avait également pour habitude de choisir un thème général pour chaque édition, une tradition que vous avez maintenue. L'édition 2022 est sous-titrée « Amitiés et correspondances ». De quelles amitiés et de quelles correspondances s'agit-il, Serge ?
Alors, je dirais de toutes les amitiés possibles entre les musiciens, qu'ils soient compositeurs, interprètes, parfois amitiés entre les compositeurs et les poètes sur lesquels ils écrivent des musiques. Voilà, les interprètes à l'époque donc, qui ont suggéré ces compositions, mais aussi les interprètes vivants qui vont interpréter pendant le festival. Voilà, des amitiés qui se sont faites il y a longtemps, qui sont en train de se faire, de se construire à tous les âges, puisqu'on on commence par Ariel Sira, Pierre Hamel. Ariel Sira, excellent pianiste amateur. Pierre Hamel, violoniste professionnel au Concert Colonne, qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont fait beaucoup, beaucoup de sonates. Bon, voilà, ils sont d'âge mûr, on va dire. Et puis, on terminera avec Roxane Oleg et Louis Cuc, qui sont deux très jeunes, qui sortent du CRR avec déjà un très beau niveau et qui vont prochainement, très certainement, intégrer des conservatoires supérieurs, nationaux supérieurs.
On va en parler de tout ça.
Voilà, hein, voilà.
On va vraiment dérouler le programme et vous pourrez parler à chaque fois des liens qu'ont ces musiciens entre eux. Et donc, la programmation et les programmes de chaque concert s'inspirent pour mettre en regard, en miroir, on pourrait dire, de ces amitiés, de ces influences aussi réciproques entre les compositeurs.
Hein. Voilà, absolument. C'est très, très souvent, les compositeurs ont des amitiés qui se nouent parfois dans les conservatoires, parfois au hasard des salons, hein, parce que nous sommes dans des époques, le romantisme hein, pour Schumann, ou bien la fin du 19e siècle, la belle époque, dans des époques où on joue beaucoup la musique chez les gens avant qu'elle soit vraiment qu'elle se soit installée dans les salles de concert. Donc on noue des amitiés et on les entretient, et parfois elles permettent de former des groupes, et elles suscitent des œuvres, elles suscitent voilà, des collaborations, hein. On a cette collaboration étonnante d'une sonate écrite avec trois compositeurs, mais voilà, les corrélats, on va dire, les correspondances sont très très nombreuses, correspondances au sens baudelairien, d'une œuvre à l'autre, d'un compositeur à l'autre, parfois, par exemple, de la musique française vers la musique russe et réciproquement.
On en vient au programme des 6 concerts, donc deux après-midi de 3 concerts, programmés les 19 et 20 novembre, 3 le samedi, 3 le dimanche. Et l'on commence avec une amicale franco-magyare à 14h30 le samedi, dont la figure centrale est évidemment Franz Liszt.
Voilà, alors ce sera Franz Liszt, mais il y aura deux compositeurs en un, puisque la Rhapsodie numéro 15, Rhapsodie hongroise pour piano, est en fait écrite sur le thème de Rákóczi, de la marche de Rákóczi, donc utilisée par Berlioz dans La damnation de Faust. C'est un thème qui est célébrissime, et donc évidemment Liszt, qui avait beaucoup beaucoup de relations et qui est peut-être le plus français des compositeurs hongrois, a utilisé dans une de ses Rhapsodies ce thème, en le transformant, en variant les tonalités, enfin, il le déforme aussi. Bon. Donc, ça va être très intéressant, et Vincent Martinet va nous jouer cette rhapsodie étonnante. Elles sont toutes, c'est un corpus extraordinaire de 19 rhapsodies. Bon, là, on a la 15. On aura ensuite en regard cette œuvre extraordinaire qui est Tzigane, donc écrite par Maurice Ravel pour une violoniste hongroise, donc dans les années 20, avec Pierre Hamel. Voilà. Et puis, en première partie de ce concert, plutôt un groupe de musiciens français qui étaient très proches les uns des autres. Bon, l'aîné, c'était Bizet, qui a eu une carrière beaucoup trop courte, qui était un enfant prodige et qui est mort très jeune, à peine après avoir écrit Carmen, sans quasiment même profiter de sa gloire. et Saint-Saëns, qui a eu une vie beaucoup plus longue, et Gabriel Fauré, grande figure, comme ça tutélaire aussi au Conservatoire de Paris, directeur, qui encourage beaucoup de compositeurs.
À propos de Berlioz et Saint-Saëns d'ailleurs, tous deux ont entretenu une correspondance, vraiment un lien épistolaire très fort avec Liszt.
Oui. Ben Liszt a été effectivement, il a une vie très mobile, hein, très itinérante. Il est venu à Toulouse, il faut le dire, hein, quand même.
Deux fois.
Voilà, au cours de ses tournées, en stupéfiant l'auditoire, toujours. Hein. C'était pas Cécilia Bartoli, mais quoique. Hein,
je crois qu'il attirait les foules. Voilà,
apparemment, les gens s'évanouissaient. Enfin, ouais, c'était voilà. Ouais. Et donc, oui, Berlioz, Liszt.
Grande amitié,
beaucoup de choses proches.
Longue amitié, donc il y aura quatre musiciens qui vont se succéder, parfois en duo. Hein. Les pianistes François Schwarzentruber, Ariel Sirat et Vincent Martinet, plusieurs générations là aussi. Et donc le violoniste Pierre Hamel. Voici une pièce extraite du programme de ce premier concert du samedi, la fameuse Rhapsodie hongroise numéro 15 dont vous parliez de Franz Liszt, interprétée ici non pas par Vincent Martinet mais par François Schwarzentruber. La Rhapsodie hongroise numéro 15 de Franz Liszt, jouée ici par François Schwarzentruber, une des œuvres au programme du concert amical franco-magyar qui commence à 14h30 le samedi 19 novembre. C'est un duo qui va prendre la suite à 16h et un duo féminin formé par la mezzo-soprano Victoire Bunel et la pianiste Sara Ristorcelli. On avait déjà entendu Victoire Bunel au Paléniel en 2019 dans un joli programme de Leader, il me semble. Là, elle revient donc accompagnée par Sara Ristorcelli pour un programme de mélodie française tout aussi alléchant, Serge.
Voilà, qui sera l'écho d'un disque enregistré il y a peu de temps avec des compositeurs, certains bien connus, d'autres à découvrir, comme alors Déodat Sévrac, les Occitans, on va dire, le connaissent peut-être un petit peu, parce qu'il est né à Saint-Félix-de-Lauragais. Il a fini sa vie à Céret, il a fait évidemment des classes à Paris, mais il s'en est vite éloigné. C'est un petit peu l'équivalent de Frédéric Mistral à la musique, hein, il l'admirait d'ailleurs beaucoup, et il a une formation tout à fait solide, bon, enfant aussi de peintre. Et voilà, on a également Ernest Chausson, qui est un grand compositeur qui a été un ami proche de Claude Debussy. Et alors la découverte, c'est Rita Stroll, donc beaucoup d'entre nous ne connaissions pas du tout, qui est une compositrice qui commence à être un petit peu rejouée, notamment
bretonne.
D'origine bretonne, et qui a eu une carrière très très en marge, notamment parce qu'elle ne faisait aucun travail particulier pour se faire éditer, pour se faire connaître, pour se faire jouer. Le fait qu'elle soit une femme aussi n'a pas facilité les choses, malheureusement, au début du XXe siècle. Et voilà, ce sera un petit peu un écho. On aura le samedi Rita Stroll, le dimanche Clara Schumann, qui lui répondra avec une carrière très différente. Mais c'est très intéressant parce que Rita Stroll a mis en musique, comme Debussy, les textes de Pierre-Louis, donc Bilitis. Les chansons de Bilitis, qui avaient eu beaucoup de succès en 1894, une série de poèmes pseudo traduits du grec, en réalité écrits par Pierre-Louis lui-même, donc une mystification.
Dont il était assez coutumier.
Voilà.
Tout l'aspect érotique
Et il était effectivement, il avait une passion pour la littérature antique. Voilà, on aura aussi Mirage de Forêt, les cinq mélodies populaires grecques qui prendront le relais de Tzigane, donc montrant la curiosité quand même de Ravel pour toutes les cultures
notamment pour la Grèce originale. Antique.
Voilà, cinq mélodies populaires grecques, encore, voilà, et encore une histoire d'amitié, puisque les textes ont été écrits par Michel Calvo-Corressi, qui était un ami critique, Chausson.
Ouais, c'est un très, très beau programme.
Chausson, Charles Cros, qu'on connaît par le prix Charles Cros, mais qui a été un grand poète symboliste,
poète, sûr,
absolument.
Oui.
Voilà. La chanson perpétuelle magnifique.
Nous allons écouter ce très bon duo Victoire Bunel, Sarah Ristorcelli dans une interprétation de la mélodie Le ciel est par-dessus le toit, composée par notre compatriote occitan Déodat Sévrac sur le fameux poème de Paul Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, mélodie de Déodat Sévrac sur le poème de Paul Verlaine, chanté par Victoire Bunel, accompagné au piano par Sarah Ristorcelli. C'est une des œuvres au programme de leur concert du samedi 19 à 16h. Un rendez-vous à ne pas rater. Troisième et dernier concert du samedi à 18h avec un instrument en vedette, le piano, pour un programme que vous avez intitulé « Petites touches d'amitié ». Et on y revient bien sûr, les amitiés, les grandes amitiés musicales.
Voilà, à travers donc toutes les touches du piano, noires et blanches mélangées ensemble et séparément, qui seront mises à rude contribution, puisqu'on a des morceaux courts. Hein. Petites touches, c'est aussi pour ça. Ce sont des morceaux courts ou des extraits d'œuvres qui constituent un fil comme ça, un fil d'amitié, Satie, Debussy. Très proche, Paul Dukas, qui n'est peut-être pas marqué sur le programme, mais qui sera joué également avec La plainte au loin du faune, une référence, un hommage après la mort de Debussy. Un petit triptyque, Ravel, Gershwin, Berg, puisque Gershwin a cherché à se situer par rapport aux compositeurs européens. Il est venu en Europe, il avait une adoration pour Wozzeck et pour Maurice Ravel, donc tous les deux lui ont conseillé de rester lui-même, ce qui était peut-être le meilleur conseil à lui donner. L'intérêt très grand de Debussy et Ravel pour les compositeurs russes, donc à travers les tableaux d'une exposition, Borodine aussi. Tout ceci évoque un peu, comme ça en filigrane, la Société des Apaches. Société des Apaches, ce groupe fondé entre 1900 et 1914 par des musiciens, mais aussi des peintres, des poètes, qui cherchaient à promouvoir, à défendre des œuvres nouvelles, originales, et qui tranchaient avec le romantisme défunt.
Ouais, le bouillonnement artistique dans le Paris du début du XXe siècle. Alors, il y a de grandes amitiés ici, mais il y a aussi de grandes inimitiés. Je pensais à Ravel et Debussy.
Ah non, ça, c'est effectivement un cliché. On oppose. En réalité, évidemment, ils ont des styles, en regardant de près, différents. Mais précisément, on aura dans ce concert l'exemple que Ravel admirait Debussy.
Mais ça, Ravel, lui, a toujours revendiqué son admiration pour Debussy. C'est l'inverse qui n'était pas
alors,
vrai,
Debussy,
soi-disant.
Oui.
Même si Debussy a salué tout de même certaines œuvres de Ravel.
Voilà, alors Debussy, effectivement, n'était pas tendre avec grand monde. Quand on était pas, on faisait pas partie de ses amis, il avait la plume très acérée. Mais voilà, effectivement, peut-être que vous aviez raison de signaler le sens de cette inimitié. En tout cas, Ravel a orchestré deux pièces écrites pour piano de Debussy. C'est une manière amical de s'approprier une œuvre, hein, de l'orchestrer, ce que Ravel faisait de manière géniale,
ah oui,
c'est-à-dire qu'il l'a fait pour les tableaux d'une exposition de Moussorgski, mais il l'a fait donc notamment pour la sarabande extraite de Pour le piano et pour la tarentelle styrienne que nous entendrons sous les doigts de Vincent Martinet.
Eh bien, vous faites bien de parler de Vincent Martinet, ce jeune et très talentueux pianiste toulousain qui va nous donner un petit aperçu du programme de ce dernier concert du samedi avec la toccata, le sixième et dernier mouvement du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Le sixième et dernier mouvement du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, la toccata, interprétée par Vincent Martinet, un des deux pianistes qui vont jouer le programme Petite Touche d'Amitié pour l'ultime concert de l'après-midi du samedi 19 novembre. Le lendemain, le premier concert du dimanche est programmé à 15h et il met en vedette la clarinette en duo avec le piano. Le pianiste, c'est encore Vincent Martinet et il va accompagner son grand copain, le clarinettiste Lilian Lefebvre, qu'on avait découvert l'an passé au Palais Niel. Il revient en 2022, et je ne crois pas exagérer en disant que c'est un des chefs de file de la nouvelle génération de la clarinette française, Serge.
Vous n'exagérez absolument pas, au contraire, il a quand même fait un gros chemin par le festival et le concours international de Prague, où il a gagné le premier prix, donc quand même un très très beau résultat.
Oui.
On aura un programme complet avec lui et Vincent, mis à part hommage à Rameau de Debussy, qui sera joué par Vincent tout seul, mais sinon... Première sonate de Brahms, donc une pièce de Chausson, deux compositeurs, plus encore un peu associés au romantisme, à la fin du romantisme. Chausson, proche de Debussy, on aura la rhapsodie, magnifique rhapsodie pour clarinette de Debussy, écrite pour le Conservatoire de Paris par Debussy. Et comme ça, une petite singularité qui renverra au concert de la veille, les pièces pour clarinette de Alban Berg, des pièces déjà très significatives du style de Berg, même si elles sont écrites au début de sa carrière.
Voilà, encore beaucoup de curiosité. Vous avez remarqué Serge Chosy dans ce programme.
Hein. Ah oui, oui, c'est formidable. Hein, là, vraiment, on va découvrir, faire à la fois des découvertes et des retrouvailles. Donc, très bonne idée.
Et on va se balader dans toute l'Europe comme ça, et même un petit peu aux États-Unis, puisqu'il y a du Gershwin. Nous allons écouter maintenant le jeune et talentueux duo que forment Vincent Martinet et Lilian Lefebvre. Ils jouent la rhapsodie pour clarinette de Claude Debussy. La très belle rhapsodie pour clarinette de Claude Debussy, interprétée par le duo Lilian Lefebvre-Vincent Martinet, c'est une des pièces de leur récital du dimanche à 15h. Le concert suivant va commencer à 16h30 et vous l'avez intitulé « Reconnaissance, Serge ». Et pour cause, puisqu'il met face à face, ou plutôt côte à côte, Mozart et Haydn, qui étaient, on le sait, liés par une grande amitié, bien sûr, même on pourrait dire une affection.
Absolument, une affection quasi filiale. Et quand vous dites côte à côte, vous avez, on ne peut plus raison, puisqu'ils ont été côte à côte véritablement en jouant des quatuors à cordes, en créant les quatuors à cordes.
Mozart à l'alto et,
voilà,
et Haydn au
violon. Ils ont joué
violon,
très probablement devant le père de Mozart, Léopold. Ils ont joué avec grand plaisir, ils ont créé les quatuors des uns et des autres. Et Mozart a dédié 6 de ses quatuors à Joseph Haydn. Donc Haydn a été une figure, voilà, effectivement, paternelle après le père biologique de Mozart. Et il l'a encouragé. Dès qu'il est arrivé à Vienne, ils se sont rencontrés. Et ça a été une très grosse perte. Bon, la mort de Mozart pour Haydn a été vraiment une catastrophe. Et il lui a en plus beaucoup survécu, donc il y a eu des échanges aussi un petit peu subliminaux dans les thèmes utilisés parfois, qui s'empruntaient des thèmes, et voilà, il y a une espèce de parenté, fratrie spirituelle.
L'ensemble qui va jouer 2 œuvres, donc une de Mozart, une de Haydn, il y aura le quatuor numéro 18 dédié à Haydn par Mozart, et le quatuor opus 76 numéro 4 de Joseph Haydn au programme, joué par le quatuor Dutilleux. Alors ça, il faut que vous nous en parliez, parce que c'est la première fois qu'ils viennent dans le festival, mais il est formé pour moitié par des Toulousains.
Voilà, effectivement, on a le très grand plaisir de les accueillir. C'est un quatuor très brillant qui s'est formé il y a pas très longtemps, oui, je crois, 2-3 ans. Voilà. Donc Guillaume Chillem, Thomas Durand, les deux vrais Toulousains formés au Conservatoire de Toulouse, ensuite bien sûr Paris, très grosse carrière, différents orchestres, Orchestre Régional d'Auvergne, dont Guillaume est le violon solo, Thomas Durand, Orchestre de Bordeaux, Orchestre de Paris, donc deux musiciens fantastiques qui se sont associés à deux autres, donc un second violon et un altiste, que nous allons découvrir. Alors, je ne sais pas quel lien ils ont avec la ville de Toulouse, peut-être un petit peu moins. On va voir, mais en tout cas, ils forment un groupe déjà très, très unifié sous le patronage d'Henri Dutilleux. Et donc, ils nous ont proposé ce miroir, la Haydn-Mozart, que nous allons entendre avec grand plaisir.
Voici un extrait d'un quatuor à cordes de Mozart interprété par le quatuor Dutilleux. Ce n'est pas le 18e, mais le 17e, appelé aussi la chasse. Il s'agit du 4e mouvement Allegro assez. Le 4e mouvement Allegro assai du quatuor numéro 17 K458 de Mozart, interprété par le quatuor Dutilleux, une formation à retrouver à 16h30 le dimanche 20 au Palais Niel. Et nous arrivons au concert de clôture de cette 7e édition de Musique au Palais, dimanche à 18h. Un concert autour de Clara, et Clara, c'est bien sûr Clara Schumann, à qui vous vouliez rendre hommage, Serge, en réunissant ses amis et son mari, bien sûr, autour d'elle.
Voilà, son mari, Johannes Brahms, qui a été un ami très très proche jusqu'à la fin, Mendelssohn, qui était une référence pour le couple Schumann, et donc un programme fait à moitié donc, de romances de toutes sortes. On aura aussi une petite référence à Chopin, qui avait été très fortement admiré dès son plus jeune âge par Schumann, et une sonate pour violon et piano, écrite donc à trois compositeurs, Schumann, Albert Dietrich, un élève, jeune élève et ami, et Johannes Brahms, interprété là aussi par une demoiselle, jeune violoniste prometteuse, Roxane Oleg.
Alors c'est la fille de Raphaël Oleg, absolument, et de Gaël Touvenin, absolument, votre camarade, voilà, artiste, absolument, à l'Orchestre du Capitole. Absolument. Elle a de qui tenir, cette petite.
Voilà, absolument. On va certainement avoir une très belle interprétation. On a en première partie le plaisir d'accueillir un collègue oboïste, Laurent Doche, qui a été premier hautbois pendant toute sa carrière à l'Orchestre de Rennes. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai fait connaître François Schwarzentruber, également enseignant à l'ENS de Rennes en informatique.
Voilà, et donc ils ont très bien accroché tous les deux. L'autre pianiste, c'est un concert autour de Clara. Donc nous allons écouter une pièce de Clara Schumann, une de ses très belles trois romances pour hautbois et piano, interprétée ici par le jeune et excellent oboïste Gabriel Pidou. Thank you. Extrait des trois romances pour hautbois et piano de Clara Schumann, interprétée par Gabriel Pidou. Voilà donc pour le troisième concert du dimanche 20 novembre qui commence à 18h et qui clôture l'édition 2022 de Musique au Palais. Serge Chechevski, je rappelle que le Palais Niel est un bâtiment de l'armée de terre et qu'il est donc préférable de réserver et d'acheter dès maintenant sa place sur la billetterie en ligne du festival www.musique-au-palais.festi.net. Cela dit, il sera possible aussi d'acheter son billet sur place.
À la dernière minute.
Voilà, donc sachez-le. Je l'ai dit au début d'émission, mais je rappelle que vous dirigez aussi l'orchestre en harmonie, Serge Krichevski. Vous vouliez annoncer le concert que vous donnez avec vos musiciens le dimanche 13 novembre à 16h30. C'est à l'église Saint-Jean-Baptiste des Sept-Deniers à Toulouse. Un concert caritatif au profit du Secours catholique pour l'accueil des familles ukrainiennes.
Voilà, vous avez presque tout dit. Nous jouerons du Haydn avec l'excellente violoncelliste Sarah Yankou, donc ma collègue à l'Orchestre du Capitole, le second concerto en ré majeur et la symphonie 42 avec cet orchestre toujours prêt à s'aventurer dans des petites curiosités.
Précision importante, l'entrée et la participation sont libres.
Absolument, et nous vous attendons nombreux. Donc cette église qui sonne très bien, c'est une belle découverte que nous avons faite pendant le Covid, grâce au Covid, on va dire.
Avant de conclure, une dernière annonce, elle concerne le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi 12 novembre à 20h à la Halle aux Grains, avec un programme Ravel, Rachmaninoff, Richard Strauss, dirigé par le chef américano-mexicain, c'est pas commun, Robert Trevino, et avec la pianiste française, elle, Marie-Ange Ngouchi, en soliste invitée, Serge Chosy.
Oui, alors Marie-Ange Ngouchi est néanmoins née en Albanie, hein. mais effectivement, elle exerce surtout en France. Elle a été l'élève de Nicolas Angelich, le regretté Nicolas Angelich.
Comme Sarah Ristorcelli dont j'ai parlé tout à l'heure.
Voilà, ouais. Voilà, récemment disparu, hélas. Et donc, il y aura effectivement la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, ensuite une autre Rhapsodie, la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff, donc joué en soliste par Marie-Ange Ngouchi, et puis le grand poème symphonique Une vie de héros de Richard Strauss, dans lequel le héros, c'est le compositeur lui-même.
En toute modestie.
En toute modestie, mais il était jeune à l'époque, et puis, ma foi, il n'a pas eu honte, ni aucun regret à se mettre au premier rang. Alors, je voudrais quand même rappeler que la Rhapsodie sur un thème de Paganini, c'est en fait un thème et variation, hein, 24 variations sur le fameux Caprice pour violon seul, numéro 24 de Paganini. Donc, nous retrouverons Robert Trevino, qui avait déjà dirigé le 27 novembre dernier, donc il y a un an, l'Orchestre du Capitole, dans une happy hour qui était consacrée à Gustav Mahler. Et je me souviens que c'était une des rares fois où l'on a pu entendre l'intégrale initiale de cette première symphonie de Mahler avec le fameux Blumin que Mahler a retiré de la symphonie.
Et il me semble que Robert Trevino avait été très apprécié dans sa direction,
aussi bien
par le public que par les musiciens. Quant à Marie-Ange Ngouchi, les habitués de Piano Jacobin la connaissent bien parce qu'elle est venue déjà à plusieurs reprises, bien que ce soit une jeune pianiste. Voilà pour ce programme, d'une part, de Musique au Palais, et puis bon, pour le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, donc sous la direction de Robert Trevino, samedi 12 novembre à la Halle aux Grains. Le concert commence à 20h comme d'habitude. Les places sont à réserver et à acheter en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à mes deux invités, Serge Chosy et Serge Krichevski. Je rappelle encore une fois que la 7e édition du Festival Musique au Palais a lieu le week-end des 19 et 20 novembre à Toulouse, au Palais Niel. Deux après-midi de trois concerts sur le thème Amitié et Correspondance. Tout le détail de la programmation est consultable sur le site www.musicopalais.org. La billetterie est en ligne à l'adresse www.musique-au-palais.festic.net où vous pouvez acheter et réserver vos places dès maintenant jusqu'au 19 novembre à 10h. Je signale aussi le concert que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse à la salle La Prade de Pradines. C'est dans le Lot, jeudi 10 novembre à 20h30. Il y a un programme baroque français et allemand pour cette soirée organisée par l'association Classique à Or. Les réservations sont à faire à l'adresse www.laprade.festic.net. Je rappelle enfin le concert de l'orchestre en harmonie avec la violoncelliste Sarah Yankou, dimanche 13 novembre à 16h30 à Toulouse, à l'église Saint-Jean-Baptiste des Sept-Deniers, concert caritatif au profit du Secours catholique pour l'accueil des familles ukrainiennes. L'entrée et la participation sont libres. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité à cette émission et excellente semaine musicale à tous.